Et si on ouvrait la parole de Dieu, s'il y avait un titre à donner à ce message ce matin, c'est « Quand Dieu nous oblige ». Et pour ce faire, il faudrait qu'on relise ce texte ô combien connu dans le Nouveau Testament, à travers les évangiles. Nous avons cette histoire répétée dans différents évangiles. Matthieu chapitre 14, du verset 22 à 33. Matthieu chapitre 14, du verset 22 à 33. Je vous laisse le temps de le chercher, ce passage qui sera pour nous le texte d'introduction. Matthieu chapitre 14, du verset 22 au verset 33. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, et pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, alors ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen et Amen. » Combien de fois avons-nous entendu cette histoire si merveilleuse? Ce n'est pas une fable, c'est une réalité. Ça a été l'expérience de ces disciples qui, à bien un moment donné, ont connu la puissance et la gloire de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais juste m'arrêter à un passage, c'est celui du verset 22, le premier verset qu'on a lu de ce long texte. Il nous est dit, aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Jésus obligea. Et je me suis appliqué à pouvoir rechercher un petit peu la racine et le verbe grec qui a été traduit en français par le verbe obliger. Le verbe obliger est tiré d'un verbe grec qui s'exprime par ce mot anangazo. Et anangazo veut dire obliger, contraindre, forcer. Ce sont quand même des mots tranchants, hein. Des mots qui sont assez forts, durs même. Je nous pose une question, est-ce que vous aimez que l'on vous oblige à faire quelque chose? J'ai déjà dit ici, quand vous commencez à me connaître, moi je suis issu d'une famille nombreuse, j'ai 7 frères et sœurs, et il y avait comme un rituel, c'est le cas de le dire, allez on va dire une coutume, n'allons pas trop loin. Le samedi soir, ma mère nous préparait souvent la soupe. Mais manque de peau avec mes frères et moi-même, on n'aimait pas du tout la soupe. Mais on était contraints, on était obligés de manger cette soupe. Et ma mère disait gentiment, si vous ne voulez pas manger la soupe, allez au lit. Mais comme on avait faim, vous voyez, on était pris entre le fer et l'enclume. Et on mangeait amèrement cette soupe. On nous avait contraints, obligés. Bon, on se rattrapait le lendemain parce que souvent, le dimanche matin après le culte, je ne sais pas si c'était voulu, mais il y avait toujours un poulet qui sortait du four excellent ou bien un poisson énorme grillé. Oh ça marque hein, cette tendre enfance. Mais néanmoins, là, on nous avait obligés. Alors, est-ce que vous aimez que l'on vous oblige à faire quelque chose? Ah, j'ai entendu un non. Je vais poser une autre question, peut-être plus précise et plus à propos par rapport à ce qu'on vient de lire. Est-ce que, selon vous, Dieu peut-il nous obliger à faire quelque chose. Dieu peut-il nous obliger à faire quelque chose? On l'a lu ensemble. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque. Il les a contraints, il les a forcés. Alors je vais répondre, comme un bon juif, par une autre question. En nous convertissant à Dieu, ce dernier n'est-il pas devenu notre maître? N'a-t-il donc pas la possibilité de disposer de nos vies comme il veut? Il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est dans l'Épître aux Corinthiens, la première Épître aux Corinthiens, au chapitre 6, les versets 19 et 20. C'est vrai que c'est un texte qu'on lit peut-être pas trop souvent, peut-être pas assez. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 et 20, je vous laisse le temps de chercher toutes ces références. Il n'y en aura pas beaucoup ce matin. Prenez des notes, vous relirez ces choses tranquillement chez vous. Mais je veux vous laisser le temps de chercher ces passages. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Il faut souligner ça, ce passage. Depuis qu'on a donné notre cœur à Jésus, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons au Seigneur. Nous sommes la chasse gardée du Seigneur. Nous sommes sa propriété. Verset 20. « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. » Et il insiste, l'apôtre Paul, « qui appartiennent à Dieu. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à mon Sauveur, à celui qui m'a aimé le premier, à celui qui a changé ma vie, à celui qui a fait de moi un de ses fils, un de ses enfants. Je lui appartiens. Mon nom est quelque part inscrit dans son livre de vie. Je suis concitoyen des saints et gens de la maison de Dieu. » Est-ce que nous appartenons à Dieu ce matin? Chacun doit répondre pour sa part. D'où l'importance de comprendre ce matin que oui, le Seigneur, parce qu'il est devenu le maître de nos vies, il peut aussi nous contraindre à prendre peut-être des chemins, des directions que nous ne comprenons pas toujours. Et ça a été le cas, pour revenir à notre texte d'introduction, ça a été le cas de ses disciples. Quand Jésus a commencé à leur dire « il faut que vous traversiez le lac de Galilée pour aller sur l'autre rive en face », ils n'ont pas compris. Et comprenez bien que si Jésus a été amené à les obliger, c'est qu'il y a eu discussion. Les disciples n'ont pas dit « ouais, d'accord ». De suite, non, Jésus a été obligé de les obliger, fin jeu de mots, tout simplement parce qu'il y avait matière à discussion. Et les disciples avaient des arguments solides. Premièrement, ils voulaient rester avec le Seigneur Jésus. C'est le temps qui nous a manqué pour lire un petit peu le contexte de ce chapitre 14 de l'Évangile selon Matthieu. Mais un peu avant, Jésus avait fait un miracle extraordinaire. Il avait multiplié les pains et les poissons. Il avait nourri 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il faut croire qu'il y avait peut-être entre 20 000 et 30 000 personnes qui étaient là. Et Jésus a rassasié toute cette foule qui était réunie. Et en plus de ça, il restait des pains et des poissons. Il y avait une joie, il y avait une euphorie, il y avait, excusez-moi l'expression, comme un réveil qui se passait là. « Mais Seigneur, pourquoi tu veux qu'on traverse ?» Et puis parmi les disciples de Jésus, il y avait aussi certains qui étaient à l'époque pêcheurs de métier. Et ils avaient bien vu cette brise qui commençait à se lever sur le lac. Et il n'était pas question pour eux de pouvoir prendre une quelconque embarcation. Les circonstances ne s'y prêtaient pas. Peut-être que Pierre a voulu à un moment donné, ça c'est moi qui rajoute, expliquer à Jésus, « Mais attends Jésus, tu sais quand le vent commence à se lever comme ça, etc., c'est pas bon signe. » Et pire encore, Jésus leur demande de pouvoir traverser alors que la nuit venait de tomber. Mais Jésus les obligea. Et Jésus les obligea parce qu'il avait une bonne raison de le faire. Et entre autres, Jésus voulait que ses disciples puissent avoir une plus grande révélation de qui il était. Ils avaient vu le Seigneur Jésus qui avait multiplié les pains. Mais Jésus voulait les emmener beaucoup plus loin. Et au travers de cette tempête, ils savaient très bien qu'ils auraient été confrontés à cette tempête. Ils ont vu Jésus venir, marchant sur les eaux. Oh, combien j'aurais voulu que le Seigneur puisse, de manière miraculeuse, venir à moi. forcément, eh bien, leur foi a explosé à ce moment-là. Leur foi a grandi. Alors, peut-être pas au début, puisqu'ils ont cru que c'était un fantôme. Et Jésus a dû les rassurer. Rassurez-vous, c'est moi. Et puis Pierre, qui a vécu cette expérience, il est sorti bien de cette barque et a marché sur les eaux. Nous, on peut marcher sur les eaux, hein, en faisant du paddle, en faisant plein de choses. Mais là, c'est ses pieds marchant sur les eaux, sur les éléments. Le miracle de Dieu. Ils ont vécu le miracle, la puissance, la gloire de Dieu. Et si bien que, eh bien, et on l'a lu au départ, eh bien, dans ce texte d'introduction, à un moment donné, spontanément, tous les disciples, imaginez-vous dans cette barque, se prosternant devant Jésus et déclarant « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Ils ont eu une révélation, ce n'est pas des choses qu'ils ont appris à l'école biblique, c'est des choses qu'ils ont approuvé, testé, qu'ils ont touché du doigt. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Ce soir-là, les disciples de Jésus expérimentèrent la toute-puissance de Jésus. Et surtout Pierre, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, qui a marché sur les eaux. Oui, Jésus, qui est devenu le Seigneur de notre vie, notre Sauveur, il a eh bien, cette possibilité, dans sa souveraineté, de nous obliger à prendre des chemins que nous ne comprenons pas toujours. Mais voyez-vous, quand Dieu nous oblige, il a toujours ses raisons. Hein. Il a ses raisons, qu'il peut nous expliquer ou pas. Parce que là aussi, il est souverain et il fait ce qu'il veut. Et j'aimerais ce matin eh bien, vous démontrer par quelques exemples que Dieu, il peut nous obliger. Et quand il nous oblige, il a également ses raisons. Tout d'abord, rappelons-nous que lorsque Dieu nous oblige, il sait ce qu'il fait. Et l'exemple que je voudrais placer devant vos yeux, c'est celui du peuple hébreu. Est-ce que vous savez qu'il y a, eh bien, à l'époque, donc, ce peuple hébreu qui est resté en captivité 4 siècles, soit 400 ans, retenu captif, eh bien, et sous la mainmise de ce grand monarque, le grand roi Pharaon. Eh bien, Dieu savait ce qu'il faisait lorsqu'il a conduit le peuple hébreu dans le désert avant de le mener aux portes du pays promis, c'est-à-dire le pays de Canaan. Eh oui, quand ils ont été délivrés par la puissante main de Dieu, eh bien, Dieu ne les a pas directement envoyés au pays de Canaan. Il les a menés où ? Dans le désert. Regardez, Exode chapitre 13, versets 17 et 18. Exode chapitre 13, versets 17 et 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, on va y revenir, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Verset 18, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge, et les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Il y avait finalement un chemin très simple pour rejoindre le pays promis, quitter l'Égypte et longer finalement la côte méditerranéenne et remonter dans le nord. Et arriver en quelques semaines, les Hébreux pouvaient, en sortant du pays d'Égypte, arriver en quelques semaines eh bien dans le pays promis. Hein. Est-ce que vous le saviez ça ? Ils seraient arrivés vers le sud eh bien de ce qu'on appelle communément aujourd'hui la Palestine. Mais ils auraient été confrontés, et c'est ce qu'explique eh bien, donc l'auteur du livre d'Exode, ils auraient été confrontés eh bien, aux Philistins. Parce que quand on arrive dans le pays eh bien, d'Israël, à l'époque, dans le sud, se trouvait le pays des Philistins. Et c'était des guerriers, c'était des gens très méchants, c'était les ennemis d'Israël. Et Dieu savait à l'avance, puisqu'il est omniscient, puisqu'il eh bien, il connaît toutes choses, il savait à l'avance que le peuple hébreu n'était pas prêt pour affronter eh bien, ces ennemis, donc les Philistins. Ils étaient, pour parler du peuple hébreu, donc des Hébreux, ils étaient physiquement affaiblis. Ils étaient également pas du tout entraînés à la guerre. Ils sortaient de l'esclavage. Et puis aussi, ils avaient besoin davantage de foi pour vaincre leur ennemi. Et c'est pour ça que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de leur faire faire un détour, et quel détour ? Par le chemin du désert. Et je vois là, par ces deux versets qu'on vient de lire, la prévoyance du Seigneur. Bien sûr, on voit également son omniscience, sa préscience, sa sagesse, mais surtout son amour. parce qu'il a de l'amour pour chacun de ses enfants. Il prévoit, il sait ce qui est bon pour nous. Et quelquefois, il nous contraint parce qu'il sait très bien là où il veut nous mener. Il sait pourquoi il nous oblige, mais il sait également là où il veut nous emmener. Ainsi, lorsque Dieu nous oblige à prendre des chemins qui quelquefois échappent à notre logique. Croyez bien que lorsque le peuple de Dieu a pris le chemin donc du désert, c'est-à-dire diamétralement opposé à donc au pays de Canaan, croyez bien que dans le peuple il y a eu des murmures. Certains sont venus et ont dit: mais Moïse, où tu nous emmènes là? Moi, sur ma boussole, on fait fausse route là. Et certainement Moïse pouvait dire: suivons la nuée. Suivant la nuée. C'est Dieu qui les conduisait. La journée avec une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Et Dieu leur a permis de pouvoir faire ce détour dans le désert parce qu'il avait ses raisons. C'est important à pouvoir retenir, lui faire pleinement confiance. Seigneur, je ne sais pas où tu m'amènes. Et tu nous as comme contraints à mener, prendre telle direction. Seigneur, nous te faisons pleinement confiance. Nos yeux sont tournés vers toi. Nous suivons la nuée. Mieux encore, pour être plus explicite, nous suivons le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, il nous mène là où il veut. On ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va. Faisons confiance au Seigneur Jésus. Autre point, lorsque Dieu nous oblige, c'est pour que nous apprenions à pratiquer sa justice. Je me répète, lorsque Dieu nous oblige, c'est aussi pour que nous apprenions les uns les autres à pratiquer non pas notre justice, mais sa justice à lui. Et j'ai ce passage que j'aime beaucoup aussi, c'est dans Matthieu chapitre 3, du verset 13 à 15. Matthieu chapitre 3, du verset 13 à 15. Il nous est dit que Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, Jean le Baptiste, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi? Et Jésus lui répondit, et c'est beau, c'est une parole de sagesse ça, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et alors Jean ne lui résista plus. Et si c'est écrit, c'est qu'au départ Jean résista au Seigneur. C'est qu'il y a eu une discussion. Là, pour faire court, l'évangéliste a écrit ces quelques phrases, mais peut-être que ça a duré un certain temps. Mais Seigneur, ce n'est pas possible. Et comprenez la situation de Jean-Baptiste. Il voit le Seigneur Jésus arriver. Là, il ne voyait plus son cousin. Là. Vous avez compris qu'il avait la révélation que c'est le Fils de Dieu qui venait vers lui. D'ailleurs, plus tard, il va dire: voici l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il savait, en tout cas en partie, que celui qui venait, venait du ciel. D'ailleurs, il dira, celui qui vient après moi, lui, il aura le pouvoir de vous baptiser d'Esprit Saint et de feu. Il dira dans l'évangile, selon saint Jean, il me semble, qu'il n'est pas digne de pouvoir délier la courroie de ses souliers. Comprenons ce matin que Jean ne se voyait pas du tout baptiser le Seigneur Jésus. D'ailleurs, je nous pose la question, est-ce que Jésus avait besoin de ce baptême ? En plus, comprenez que dans cette période-là, le baptême que pratiquait Jean le Baptiste n'a rien à voir avec le baptême qu'on pratique aujourd'hui. Le baptême qu'il faisait, c'était un baptême de repentance. Il préparait le cœur des Juifs, du peuple de Dieu, à pouvoir préparer la venue du Messie qui était déjà là. Vous savez pourquoi Jésus s'est fait baptiser ? C'est pour nous montrer un exemple. Et quand je vois qu'il y en a qui discutent, je me fais baptiser, pas, etc. Frères et sœurs, si Jésus, qui n'avait pas besoin de se faire baptiser, nous montre qu'il s'est fait baptiser à l'âge de 30 ans, comprenez que c'est tellement important, le baptême. Oh, on prend de l'eau. Mais il y a toute une symbolique, même une portée spirituelle. Est-ce que vous savez que dans les groupes sataniques, ils font exactement l'inverse. Ils prennent les candidats, et il les allonge dans un cercueil et on leur demande de mourir à l'esprit de Dieu et renaître avec l'esprit de Satan. Parce que le diable, c'est toujours celui qui singe ce que Dieu fait. Et béni soit Dieu pour cette œuvre qu'est le baptême. Jésus a dit lui-même, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On a besoin d'être des hommes et des femmes déterminés et qui prennent des positions pour mourir eh bien, notre ancienne vie pour renaître dans une vie nouvelle. Celui qui vous parle, c'est le nouveau Joël. Celui de l'ancien, il n'était pas très intéressant. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, je referme la parenthèse. Rendez-vous compte, Jean allait baptiser du baptême de la repentance le créateur de l'univers. C'est ça qu'il avait en esprit quand il a vu Jésus. Et quand ce dernier lui a dit, il faut que tu me baptises. Jean s'opposait à ce qu'il puisse baptiser Jésus. Il disait, mais Seigneur, non, c'est pas à moi de te baptiser, c'est plutôt à toi de me baptiser. Il y avait une espèce de négociation là. Et c'est alors que Jésus dit ce qu'on a lu au verset 15, Matthieu 3, verset 15. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et alors Jean ne lui résista plus. À un moment donné, il faut lâcher prise. Et quelquefois, Dieu, il insiste. Quelquefois, le Seigneur, il nous oblige. Parce qu'il veut que nous apprenions ce qu'est la justice de Dieu. Vous savez, la logique humaine n'a rien à voir avec la justice de Dieu. La justice des hommes n'a rien à voir avec la justice de Dieu. Quelquefois, ce qui paraît invraisemblable à nos yeux, incompréhensible, et finalement, la justice que Dieu aimerait que nous pratiquions n'a rien à voir avec ce que nous pouvons penser. Pour nous, c'est tellement logique. Il faut qu'il vienne vers moi avant que je vienne vers lui. Il faut qu'il vienne me demander pardon avant que je fasse la démarche. Quand je lis, par exemple, dans Matthieu, il dit, si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. La logique voudrait que, attends, il a quelque chose contre moi, alors qu'il vienne. Moi, j'ai rien contre lui. C'est fort. Jésus nous commande, Jésus nous oblige. Vous savez, les commandements de Dieu sont ni plus ni moins des obligations pour nous. Il nous commande de ne pas nous venger, mais au contraire de s'en remettre au juste juge. Il nous commande que nous puissions pratiquer le bien et non le mal. Jésus nous commande aussi de ne pas rendre le mal pour le mal. Ah, il m'a fait ça! Je vais lui faire exactement pareil. La loi du talion, ça c'est l'Ancien Testament. Œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus est venu rectifier la chose. Jésus est venu parfaire la loi et nous rappeler de ne pas rendre le mal pour le mal, mais s'en remettre encore à la justice de Dieu. Jésus nous commande d'aimer nos ennemis. Amen ou pas amen? Matthieu chapitre 5, versets 43 et 44. Un passage qui est très bien aussi. Vous avez appris Jésus qui dit, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Oh, stop, Seigneur. T'en demandes trop. Si c'est impossible pour nous, c'est parfaitement possible. Un bien pour Dieu, et surtout possible à l'Esprit de Dieu qui habite au-dedans de nous. Jésus nous commande aussi de nous aimer les uns les autres. Amen ou pas amen? Il nous demande d'aimer celui qui est à notre droite ou à notre gauche. Vous l'avez regardé là ce matin? Aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Finalement, je vous donne une obligation nouvelle. Je vous l'impose. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas suivant ce que je ressens, mais je vous commande, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il nous demande aussi de nous pardonner les uns les autres. Et puis un pardon sans limite. Combien de chrétiens face au commandement de la Bible manifestent, tout comme Jean, une forme de résistance, de la réticence, avec plein d'arguments qui peuvent, sur le plan humain, tenir la route. Mais ce qui est important pour nous ce matin, c'est de pouvoir nous soumettre à la justice de Dieu. Celui qui pratique la justice de Dieu sera réellement reconnu comme fils et fille du Dieu vivant et vrai. Ce que nous oublions trop souvent, c'est que tout ce que Jésus nous commande de faire, ce sera toujours pour notre bien. ce sera toujours un bien pour notre joie, pour notre bonheur. Et le soupir de Dieu, il est toujours d'actualité. Ce soupir, il est exprimé au travers de la bouche du prophète Ésaïe, quand il dit dans Ésaïe chapitre 48, verset 18, la chose suivante. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, si tu étais attentif à mes ordres, à ma loi, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Je nous pose la question, est-ce que ce matin on veut être heureux? Il nous faut nous attacher, nous soumettre sans discuter au commandement de Dieu. Tout comme Jean, ne résistons plus au commandement de Christ. Soumettons-nous. On l'a lu ensemble et Jean ne lui résista plus. À un moment donné, il faut lâcher prise, il faut courber les chines et laisser pleinement le Seigneur faire. Seigneur, je te fais confiance. Pour moi, il n'y a pas de logique à ce que tu me demandes, mais je veux pleinement te faire confiance. Je veux me soumettre à ta parole. Encore aujourd'hui, des chrétiens prennent des parties qui les intéressent dans la Bible et en déchirent d'autres ou en négligent d'autres parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et quelquefois, Dieu, il oblige, il nous oblige, il insiste, comme il a insisté auprès de Jean, afin que nous apprenions à pratiquer la justice de Dieu. Je voudrais terminer avec un autre exemple. On a vu que lorsque Dieu nous oblige, il sait ce qu'il fait. On vient de voir que lorsque Dieu nous oblige, c'est aussi pour que nous apprenions à pouvoir pratiquer sa justice et non la nôtre. Je voudrais terminer en rappelant aussi que lorsque Dieu nous oblige, c'est aussi pour nous purifier et également nous sanctifier. Et là, j'aurais aimé entendre un amen. On est dans la pensée, dans la vision que Dieu nous a donnée de la sanctification. Et j'ai dit tout à l'heure que Dieu fit faire au peuple hébreu un détour dans le désert. Et il faut noter que ce détour, il n'était pas des moindres. Parce que ce détour, il a duré longtemps. 40 ans dans le désert. 40 années à tourner en rond. Je vous assure, il y avait des gens qui avaient des boussoles. Et souvent, aller voir Moïse et dire, mais là, on est en train de tourner en rond. Et Moïse, toujours pareil, regardez la nuée. 40 ans. Mais il fallait bien ces 40 années dans le désert pour que le Seigneur puisse purifier, sanctifier, excusez-moi l'expression, puisse purger tout ce qui était de mauvais dans le cœur même de ce peuple qui sortait du pays d'Égypte. Il y avait une mentalité en Égypte. Et ils avaient même eux-mêmes la mentalité d'esclaves. Et il a fallu ces 40 années pour que le Seigneur puisse purger, purifier toutes ces choses dans la vie de chacun des Juifs. C'est tellement important. Vous savez, il n'a pas fallu beaucoup de temps à Dieu pour faire en sorte que Pharaon puisse courber l'échine, puisse fléchir le genou. Juste le temps de 10 plaies. La 10e a été radicale. Et Pharaon a dit, allez, sortez, partez, en parlant du peuple hébreu, en plus de ça, a demandé à ce qu'on puisse leur donner l'or, l'argent, tout ce qu'ils voulaient. Il n'a pas fallu beaucoup pour que le peuple hébreu puisse sortir d'Égypte. Mais je me rends compte avec vous qu'il a fallu longtemps, et même 40 années, pour que l'Égypte puisse sortir du cœur, puisse sortir de la mentalité, puisse sortir pleinement de l'être tout entier de ce peuple hébreu. Et Dieu voulait purifier le cœur des Hébreux, et c'est pour cela que Dieu obligea son peuple à demeurer 40 ans dans le désert. Et ce fut comme un passage obligé. Il y a dans la vie de chacun d'entre nous des passages obligés. Et c'est Dieu lui-même qui les prépare. Un passage obligé, un exemple, c'est celui de Jacob. Jacob a eu aussi son passage obligé. J'aime beaucoup ce jeune homme. Jacob qui veut dire supplanteur. Un gars qui a mis une véritable pagaille dans sa famille. Il s'est mis en conflit direct avec son frère, d'ailleurs, son frère Ésaü, qui s'est juré, qui s'est promis de pouvoir le tuer. Et puis il a dû fuir. Il a été envoyé de par sa mère chez son oncle Laban. Et sur le chemin, vous connaissez son histoire, vous pourrez la relire dans Genèse chapitre 27 à 33. Sur le chemin, Dieu lui a fait grâce. Dieu s'est révélé d'une manière extraordinaire. Il dormait, il avait pris comme oreiller une pierre. Et là, qu'il est en train de dormir, Dieu lui montre un songe. Il voit une échelle, vous voyez cette fameuse échelle. Et à partir de ce moment-là, finalement, sa vie a changé. L'espoir a commencé à naître dans son cœur. Et Dieu lui a fait grâce. Dieu n'a jamais, à partir de ce moment-là, Dieu n'a jamais abandonné ce jeune homme. Il est parti chez Laban. Dieu l'a béni de toutes sortes de manières. Jacob n'est pas rien. Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Jacob, c'était donc l'un des patriarches de l'Ancien Testament. Mais voilà, Jacob avait un contentieux à régler avec son frère. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et vous savez que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu qui est juste. Et il ne prend pas le coupable pour innocent. À un moment donné, il peut nous bénir et puis à un moment donné, permettre que eh bien, le temps est favorable, le temps est mûr pour que vous puissiez eh bien, être face à face avec vos responsabilités. Jacob avait un contentieux à régler avec son frère Ésaü et Dieu a fait en sorte qu'ils se rencontrent. C'était une rencontre fatidique entre ces deux frères. Ce n'était pas évident. Regardez ce qu'il est dit dans Genèse chapitre 32, versets 6 et 7. Juste une partie. Vous pourrez relire toutes ces choses, c'est extraordinaire. Les messagers revinrent auprès de Jacob. Jacob avait donc plein de serviteurs et il envoyait quelques messagers au devant de son frère. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Essayez de vous imaginer le regard de notre ami Jacob. Il a peut-être fait une syncope. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Autrement dit, il s'est quelque peu affolé. Il a commencé à mettre un plan, peut-être un plan humain, en place. 400 hommes, c'est pas pour me bénir qu'il vient avec 400 hommes. Mais le Seigneur avait déjà tout préparé. Jacob ne pouvait plus faire marche arrière. C'était le temps pour lui de régler son problème avec son frère Ésaü. Jacob, avec foi et courage, se mit à prier Dieu. Vous savez, la veille de cette fameuse rencontre avec son frère, vous savez qu'il est resté là seul avec le Seigneur et il a lutté, non pas contre Dieu, mais avec Dieu. Et pour ne pas qu'il s'échappe de ce moment, de ce passage obligé, eh bien, il a été l'ange a démis sa hanche. Ah là, il ne pouvait pas fuir, hein. Et Dieu fit en sorte que la réconciliation entre les deux frères se passe bien. Bien sûr, il faut faire un parallèle avec nous. De même, parce que Jésus nous aime et qu'il ne veut pas que nous restions pour compte lorsqu'il reviendra, parce que Jésus-Christ reviendra. Et je ne veux pas qu'on se flatte ici, en ce lieu. Rien n'a pu, rien de souillé ne pourra entrer dans le royaume des cieux. S'il y a des choses à régler, c'est ici-bas. Autrement, nous ne pourrons résister. Il n'y aura pas de négociation. C'est étonnant quand je lis, je ne l'ai pas mis sur mes notes, mais j'y pense là maintenant, quand Jésus a rappelé eh bien, cette parabole, la parabole des convives qui ont été invités. Mais pour entrer, il fallait revêtir un certain habit. Et puis, il y a un qui est arrivé d'une manière désinvolte. Ah ben non, moi je suis comme ça, je reste comme ça, voilà, laissez-moi entrer. Oh, les serviteurs n'ont pas insisté. Mais quand le roi lui-même est entré, vous croyez qu'il ne l'a pas vu? Et il arrivait directement vers lui. Et c'est que beau, vous relirez aussi ce passage. Et il va dire, mon ami, mais comment es-tu entré ici sans avoir revêtu un habit de fête? Comment cela peut-il se faire? Alors on peut eh bien outrepasser, on peut se fondre à la masse. Jésus lui-même a dit, laisse pousser l'ivraie et le blé. Et c'est lui-même qui fera la séparation. Et il a dit, mettez-le dehors. Ça, c'est la justice de Dieu. C'est pour ça que pendant qu'il en est temps, Jésus nous oblige parce qu'il nous aime. Et il ne veut pas que nous restions pour compte lorsqu'il reviendra. Jésus nous oblige eh bien, aussi à faire face à nos responsabilités et quelque part nos inconséquences. Lui-même va créer dans nos vies. Il va créer dans nos vies les opportunités, les occasions pour que nous purifions eh bien, pleinement nos vies de tout ce qui n'est pas à sa gloire. Il y a des étapes dans la vie. Jacob, peut-être avait-il oublié cette histoire avec son frère. Puis à un moment donné, les choses reviennent à la surface. Parce que le Seigneur, il nous purifie au fur et à mesure de notre marche avec lui. Et voyez-vous, plus on s'approche du Seigneur, plus la lumière du Seigneur revient sur nous. Et nous voyons de plus en plus les tâches, les choses à régler. C'est extraordinaire. Ça, c'est le chemin de la sanctification. Et nul besoin de se saouler, de pouvoir s'étourdir pour eh bien, empêcher notre conscience d'être en harmonie avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous révèle les choses afin de nous sanctifier. Dans ces moments particulier. Il s'agit pour nous d'implorer avec foi le secours de Dieu, afin qu'il nous aide à obéir à sa volonté. Ce n'est pas toujours évident. J'ai eu aussi ces passages obligés. Je l'ai déjà raconté ici. Une fois, je devais faire une démarche auprès de ma petite sœur. Dieu m'avait demandé de lui demander pardon. Première fois, je faisais ça, c'était quand même humiliant. Attends, c'était ma petite sœur quand même. Je l'ai pris dans la chambre. Je me suis assis. Même le parlant-langue ne pouvait pas suffire. J'ai dit, Seigneur, comment je vais m'en sortir ? Mais la Bible dit, Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et j'ai ouvert la bouche. La Bible dit, « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Vous savez, si le diable pouvait parler à ce moment-là, il me dirait, « Joël, ne touche surtout pas à ça ! J'ai pris des années pour monter tout ça. Ne touche surtout pas à ça. » Vous savez, il y a un enjeu. Quand le Seigneur, il dit, « Vous saisirez des serpents. » Vous avez compris que ce n'est pas des serpents physiques. Il y a des serpents spirituels, quelquefois, qui se lovent dans nos maisons. Et Dieu nous donne l'autorité de pouvoir saisir ces serpents et déloger l'ennemi là où il se trouve, là où il pourrait se cacher, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre famille. Et Dieu cherche des hommes et des femmes courageux qui sont capables de s'humilier, parce que souvent, quand on reste dans une position critique, c'est à cause de l'orgueil. Souvent, c'est à cause de l'orgueil. On ne veut pas. On ne veut pas lâcher prise. On ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et quelquefois, le Seigneur, il oblige. Il nous oblige. Il nous oblige jusqu'à un certain point, parce qu'il nous a laissé avec le libre arbitre. Pour revenir avec ma sœur, j'ai dit, écoute, ma chère sœur, hein, on n'est pas fiers à ce moment-là. Hein. La fierté, tout le monde part. Je demande humblement pardon pour ceci, pour cela, etc. Oh, il y avait de l'électricité dans l'air. Et ce qu'elle a dit était très fort. Elle m'a dit, mais Joël, je n'ai même pas de mots. C'est très fort ce que nous sommes en train de vivre là. Et ça nous a rapprochés plus que jamais. Et jusqu'à maintenant, Dieu est tout puissant. Et quand il nous demande, quand il insiste, même quand il oblige, c'est toujours pour notre bien. Tu es peut-être dans la situation des disciples à qui Jésus a imposé de faire une certaine chose. Or, ce que le Seigneur t'a demandé de faire ne te convient pas. Tu as de la réticence à obéir au Seigneur. Car à tes yeux, cela ne semble pas être logique. C'est même incompréhensible à tes yeux, voire injuste à tes yeux. Mais ce que nous devons retenir, et ce que nous avons partagé ce matin, c'est que lorsque Dieu nous commande de faire quelque chose, il sait ce qu'il fait. Et il sait où il veut nous conduire. Lorsqu'il nous oblige à faire une chose, même incompréhensible à notre entendement, à notre intelligence, ce n'est jamais pour nous nuire, jamais pour nous terrasser, ou nous détruire, au contraire. C'est pour notre bien et notre épanouissement, même certaines situations, pour notre salut, pour que nous soyons fin prêts lorsqu'il reviendra. C'est pourquoi nous avons besoin de lui faire confiance à travers tout ce qu'il nous demande de faire. Alors ne résistons plus aux commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, ils sont merveilleux pour ceux et celles qui choisissent de les mettre en pratique. Jésus a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, mais pourvu de grâce, pourvu que vous puissiez les pratiquer, prions ensemble le Seigneur. Merci Seigneur d'avoir obligé ses disciples à pouvoir traverser ce lac. Parce que tu avais en réserve pour eux, même au milieu de la tempête, des choses extraordinaires que nous-mêmes ici présents, nous n'avons pas vécues. Merci Seigneur Père de nous obliger, de nous commander, puisque ta parole, Seigneur Père mon Dieu, est remplie de commandements. Tu nous commandes, Seigneur Père mon Dieu, tu nous imposes pour notre vie nouvelle, Seigneur, de vivre la justice, non pas la nôtre, mais la tienne, afin que nous soyons heureux et victorieux. Seigneur, tu nous obliges quelquefois, Seigneur Père, à purifier, à sanctifier nos âmes, parce que tu ne veux pas que nous soyons destinés à la perdition. Je te prie dans ta grâce, parle à nos cœurs ce matin. Aide-nous, Seigneur, à continuer le chemin de la sanctification. Aide-nous, Seigneur Père, mon Dieu, les uns les autres, à obéir à la voix du Saint-Esprit, lorsqu'il nous commande, lorsqu'il nous impose de faire ceci ou cela. Seigneur, sans comprendre, Seigneur, tout, nous voudrions pleinement te faire confiance et nous attendre à toi. Parce que lorsque tu trouves de l'obéissance, alors il y a forcément, assurément la bénédiction derrière. Tu es celui qui se lève pour nous. Seigneur, lorsque nous choisissons ta justice, c'est toi, le juste juge, qui se lève et qui nous fait justice en retour. Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Bénis nos cœurs à l'écoute de ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen.